Vivre FM
Podcast. Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Bonjour, bienvenue dans Recherche et partage. Aujourd'hui, je vous propose de plonger vraiment dans le 21e siècle, si vous n'y êtes pas encore tout à fait. Ressources libres, imprimantes 3D, prototypage, techniques d'interaction non visuelles, tout cela peut ressembler encore un peu à de la science-fiction pour certains. Pour d'autres, c'est un gloubi-boulga verbal dont on ne sait pas trop à quoi il correspond. Mais pour nos invités, c'est très clair. Enfin, j'espère en tout cas, ça leur permettra de nous expliquer de quoi il s'agit. Le titre du projet de recherche dont on va parler aujourd'hui, c'est GeoAccess, les nouvelles technologies pour l'accessibilité des données géographiques. C'est un projet de recherche soutenu par la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap. Et cette émission vous est aussi proposée en partenariat avec l'OCIRP. Voilà, Recherche et Partage, et bien c'est tout de suite sur Vivre FM. Bonjour, donc bienvenue dans Recherche et Partage. Merci à nos trois invités d'être en plateau avec nous aujourd'hui. Christophe Jouffré, vous êtes chercheur à l'IRIT, l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, et directeur du laboratoire commun avec l'IJA Toulouse, l'Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse. Bonjour, merci.
Bonjour.
J'ai commencé par monsieur, mais nous avons aussi Nathalie Bédouin et Anne Leroux avec nous. Nathalie Bédouin, vous êtes transcriptrice et adaptatrice en documents à l'Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse.
Bonjour.
Bonjour. Et Anne Leroux, enseignante spécialisée à l'IJA. Je vais dire l'IJA, ce sera plus simple. Ça y est, les auditeurs ont compris. C'est l'Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse.
Bonjour. Bonjour.
Merci à tous les trois. J'ai cité à l'instant le laboratoire commun, l'IRIT. IJA, donc Institut de Recherche en Informatique de Toulouse et Institut des Jeunes Aveugles. On va commencer tout de suite par éclaircir peut-être nos auditeurs sur ce qu'est ce laboratoire commun, puisque c'est un des acteurs essentiels du projet de recherche qu'on va aborder dans un instant. Qui veut commencer peut-être, Christophe, pour nous expliquer la finalité de ce laboratoire?
Alors oui, effectivement, ce laboratoire commun, en fait, c'est une initiative. Donc, il faut savoir que l'IRIT, c'est une unité mixte de recherche, ça s'appelle. Donc, c'est une unité qui appartient au CNRS et aux universités de Toulouse. Et en fait, moi, je dirige dans cette unité un groupe de recherche qui est focalisé sur les technologies d'assistance pour les personnes déficientes visuelles. Et assez rapidement, en fait, j'ai eu la volonté de créer un partenariat, on va dire pérenne, avec l'Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse. L'idée étant de faire un travail sur du long terme. Pas faire simplement des réponses à des appels d'offres et puis changer de thématique deux ans plus tard, aller chercher de l'argent ailleurs. Donc en fait, on a créé ce labo commun qui nous permet de travailler ensemble. On travaille sur les besoins, on fait de la prospective, on prépare les appels d'offres, on y répond. Quelquefois, on les décroche, c'est le cas pour la FIRA. Voilà. Et ça permet d'ancrer la recherche dans un mécanisme plus proche des besoins. Et ça, je pense que c'est un atout.
Et puis alors, on est vraiment dans le cadre de la recherche appliquée, c'est-à-dire qu'on est dans le concret, dans des savoirs qu'on va pouvoir toucher du doigt assez rapidement et partager et diffuser l'information. C'était un peu l'idée aussi de ce laboratoire.
Alors, on fait les deux. Moi, j'ai une mission aussi de recherche fondamentale. Donc, en général, dans tous les projets de recherche, et ils sont quasiment tous en partenariat avec l'IJA, dans le cadre du labo commun, il y a une partie fondamentale et une partie appliquée. On essaye vraiment de développer les deux. On publie et on produit des connaissances sur des supports en anglais qu'on va présenter à l'autre bout de la planète. Mais on vient aussi parler à Vivre FM de nos réalisations concrètes. J'espère qu'on en fera la preuve juste après.
Oui, on va y arriver dans un instant. Mais comme on vient de présenter le laboratoire commun, c'est un des acteurs universitaires de la recherche. Et c'est vrai que dans le cadre des projets de recherche soutenus par la FIRA, on insiste beaucoup sur effectivement la pluralité de ces acteurs. Il y a aussi des acteurs associatifs et des organismes de fondation. Alors il y a, je vais les citer, vous me dites si j'en oublie. Alors parmi les universitaires, d'abord, il y a le laboratoire de développement sensori-moteur affectif et social, le SMAS.
Mm-hmm.
Vous me dites, si on se trompe. Et il y a l'INRIA Potioc.
Oui, voilà. L'équipe INRIA à Bordeaux.
Et puis parmi les acteurs associatifs, l'Association pour le bien des aveugles et malvoyants, qui se trouve à Genève aussi.
En fait, c'est l'équivalent de l'IJA, pour des personnes plutôt âgées, à Genève.
Et puis le centre, alors là, c'est l'organisme de formation, le centre d'éducation spécialisé pour les déficients visuels et l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse, dont on va
parler. C'est son vrai nom, centre spécialisé d'éducation c'est le vrai nom officiel de l'IJA. L'IJA, c'est le nom court et,
d'accord,
bon, et nous, plus facile à utiliser.
On va utiliser IJA pour ce soir. Mais,
j'ai pas dit bêtises. Hein.
Non, absolument.
Mais voilà, nos auditeurs comprendront. Le Centre d'éducation spécialisée pour les déficients visuels, CESDV IJA. J'ai pas oublié d'autres participants à la recherche que
non,
je ne vexe personne. Alors un mot sur l'IJA peut-être avec vous Nathalie et Anne qui veut se lancer pour nous expliquer aussi quel a été l'intérêt de l'IJA de rejoindre ce laboratoire commun et puis quel est un peu quelles sont les activités de l'IJA pour ceux qui ne connaissent pas. Allez, lancez-vous, Nathalie.
L'intérêt de l'institut c'est de participer du coup à des recherches et de pouvoir à la fois tester des choses et à la fois parfois demander si ça serait possible de chercher dans une direction particulière selon des besoins identifiés avec les usagers de l'Institut.
Parce que vous, effectivement, vous êtes aussi énormément dans le concret, dans la pratique. Et ça va être important dans le cadre de la recherche d'avoir des retours des premiers concernés et des personnes qui sont justement avec vous à l'Institut.
Oui, on a des retours des professionnels qui sont des formateurs, des enseignants, et des retours des usagers, des élèves qui utilisent après le matériel qui leur est proposé par les enseignants.
Alors, si je peux juste me permettre, je pense que c'était le sens de la question un peu. L'IJA, c'est un centre spécialisé pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est vraiment, il accueille des enfants déficients visuels et il les forme jusqu'à très tard, puisqu'il y a de la formation continue.
Il y a de la formation pour adultes.
Voilà. Et c'est combien, une centaine, voire un peu plus d'enseignants,
150,
formateurs.
On est 150 à travailler, 150 professionnels. Il y a peut-être une trentaine d'enseignants, des éducateurs, des assistantes sociales. Enfin, bon, il y a tous les corps de métier, en fait.
Et
150 enfants, adolescents ou adultes.
Voilà, et c'est important de préciser ce cadre-là parce que l'objectif de la recherche, ça va être effectivement d'apporter, d'enrichir en tout cas les connaissances, les outils utilisés à la fois par les enseignants justement spécialisés et les élèves. Alors qui veut nous résumer GeoAccess, les nouvelles technologies pour l'accessibilité des données géographiques, de quoi s'agit-il? Quelle était l'idée de ce projet et comment l'expliquer à nos auditeurs?
Alors je peux peut-être commencer par un peu de contexte là aussi, puis après par contre je vais les laisser décrire ce qui les intéresse aujourd'hui. En fait, quand on a soumis cette réponse à l'appel à projet à la FIRA, donc qui est effectivement une fondation qui réclame de l'appliquer, dans ce cas-là, c'est très spécifique, on avait vraiment envie de travailler sur les données géographiques, mais finalement, on s'aperçoit que les technos là, dont on va vous parler s'appliquent à tout un tas de professionnels, pas seulement les instructeurs en locomotion ou les profs d'histoire géo. D'ailleurs, Anne n'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment tous les professionnels de l'Institut des jeunes aveugles qui sont intéressés. Donc, on a un peu mis de côté l'aspect géographique, finalement, aujourd'hui, quand on communique sur le projet. Alors, au niveau technologique, c'est quoi? En fait, on sait aujourd'hui qu'on peut imprimer assez facilement des objets en 3D. Donc imprimer des objets en 3D, c'est hyper intéressant pour des enfants déficients visuels. Ça permet de matérialiser des objets, de leur faire prendre conscience, de pouvoir toucher des formes de différentes tailles, etc. Donc ça, c'est déjà un avantage énorme. Mais en plus, aujourd'hui, il y a plein de petits ordinateurs, on va appeler ça comme ça, c'est des petites cartes en fait, qui coûtent presque rien, entre 30 et 50 euros, qui sont très faciles à connecter à un objet pour le rendre interactif. C'est-à-dire que sur cet objet, on va pouvoir avoir des formes, on pourrait imaginer ce micro. Quand je le touche d'un côté, il va dire quelque chose. Quand je le touche d'un autre côté, il va dire autre chose. Et très facilement, je vais pouvoir, moi, décider quel type de description je mets à l'avant du micro, quel type de description je mets à l'arrière, si je veux ajouter la voix d'un enfant, etc. Donc voilà, ça, c'est le principe. C'est des objets qui coûtent rien et qui sont faciles à manipuler par tous.
Alors on se dit, pourquoi n'y avoir pas pensé avant? En tout cas, c'était une demande de l'IJA, des personnels, des éducateurs, des enseignants.
En fait, c'était pas forcément une demande dans la mesure où des fois on sait pas que c'est possible. Donc on nous apprend que c'est possible et du coup on imagine une demande qui pourrait permettre d'appliquer ça. Donc
c'est plus qu'une demande, on est submergé de demandes.
Oui, voilà. Plus ça va en fait, plus on expérimente et plus on s'aperçoit qu'il y a des possibilités et donc les idées viennent, on est plusieurs corps de métiers différents à avoir envie de quelque chose et à mettre en place des nouveaux projets. Donc à soumettre à Christophe ou à son équipe des nouvelles idées, plus ou moins réalisables. Donc on espère que plus ça va aller, plus on va réussir à faire des choses. En tout cas, au vu des résultats, on a vraiment envie de poursuivre, ça.
Alors,
c'est sûr.
Là, on est resté un petit peu dans, dans le flou, ça parle peut-être pas encore très bien à nos auditeurs, mais je sais que Nathalie est venue avec une petite carte, je pense le genre de carte dont nous parlait Christophe à l'instant. Concrètement, il s'agit de quoi ? On a dit voilà, se servir des nouvelles technologies, mettre du son, essayer de... il s'agit de quoi ? Quel exemple on peut donner à nos auditeurs pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit en fait ?
Donc ça, c'est un objet qui est utilisé en cours de locomotion, donc pour apprendre aux élèves à se déplacer et à gérer l'environnement en quelque sorte. Donc il s'agit d'un pont qui a été imprimé en 3D, qui est connecté à une petite carte informatique avec un haut-parleur. Et en fait, le pont est recouvert de peinture magnétique. Et on peut du coup lui faire produire un son quand on passe un petit bonhomme dessus.
Oui, alors il y a une espèce de petit Playmobil. Il y a concrètement sur le plateau où nous a amené, il y a ce petit pont qui a été effectivement réalisé avec une imprimante 3D. Donc c'est du plastique léger, on peut créer tous les objets assez facilement. Et ça permet donc à la personne déficiente visuelle d'appréhender ce que c'est que le pont. Ça va lui. Et quel est le rapport avec le son ? On a parlé de son tout à l'heure aussi. Donc il y a le toucher, il y a le son. Comment se complètent les deux ?
En fait, ça permet de toucher pour savoir comment est formé un pont, ce qu'ils peuvent pas forcément savoir. Ils touchent jamais l'objet entier. Et en plus, le son va permettre de rappeler des expériences qui sont faites pendant les cours de locomotion sur ce pont. Donc concrètement, sur ce pont en particulier, quand ils sont en cours de locomotion, ils jettent des cailloux dans l'eau pour se rendre compte qu'il y a de l'eau des deux côtés du pont, pour se rendre compte que l'eau passe même en dessous, mais ils ne peuvent pas toucher l'eau et ils peuvent pas toucher le pont complet. Et donc du coup là, ils ont enregistré le son des cailloux. Donc quand ils jettent le caillou, on peut l'entendre du coup maintenant en connectant le pont avec le petit bonhomme. Quand le petit bonhomme passe dessus, en fait, ça déclenche ce son-là du caillou qui tombe dans l'eau.
Même si le petit bonhomme ne jette rien.
En l'occurrence.
C'est ça.
Mais ça, c'est un aspect qui est très intéressant, en fait, c'est que le rendu qu'on a sur ces objets interactifs, il est vraiment personnalisé. Et c'est une dimension qui revient souvent, c'est-à-dire les professionnels nous disent « Ah oui, c'est la voix de l'enfant que j'enregistre, c'est l'enfant qui jette un caillou que j'enregistre. » Donc ça, lui, ça parle, ça lui parle vraiment. C'est son expérience, celle qu'il a vécue, qu'il va revivre en jouant avec ses petits objets.
Mais là, j'aurais eu tendance à croire que c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on lui, avant même qu'il fasse l'expérience, on lui proposait finalement à quoi risque de ressembler cette expérience le jour où il va pouvoir passer sur un pont, jeter un caillou. Donc ça marche dans les...
Ça marche dans les deux sens. En l'occurrence, là, il me semble que c'était plutôt dans le sens où ils avaient... D'abord, ils sont allés sur site.
Ils ont d'abord fait des ateliers de locomotion sur le pont et dans tout le quartier, parce que ça fait partie d'un dispositif un peu plus vaste. Là, j'ai que le petit pont, mais il y a un autre grand pont, etc., avec le bruit d'un train qui passe sur le grand pont pour différencier les deux ponts, justement. Et donc, ils ont d'abord fait beaucoup d'études de tout cet environnement qui est situé près de l'Institut des Jeunes Aveugles, donc où ils vont souvent faire des promenades et des exercices de locomotion. Et après, ils ont enregistré ce qu'ils faisaient pour repérer les différents lieux et ils ont pu avoir la maquette plus tard. Mais ils ont vraiment d'abord travaillé sur site Grandeur Nature.
GeoAccess, les nouvelles technologies pour l'accessibilité des données géographiques, mais pas que. On vous retrouve dans un instant pour continuer d'en parler.
Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
De retour dans Recherche et partage avec nos invités Nathalie Bédouin, Anne Laureau, Christophe Jouffré, j'oublie personne, non ça va, il y en a trois. GeoAccess, les nouvelles technologies pour l'accessibilité des données géographiques et d'autres données aussi. On parlait à l'instant avec vous de ces petites cartes, des micro-ordinateurs qu'on connecte à des objets pour permettre à des personnes déficientes visuelles finalement de visualiser l'espace, en tout cas de comprendre l'espace dans lequel ils évoluent. On nous a ramené donc un petit pont avec un petit personnage à côté. On expliquait à nos auditeurs que ça génère un bruit, des bruits qu'ils ont enregistrés avant, en tout cas le groupe d'enfants avec qui vous étiez, Nathalie. On peut peut-être commencer tout de suite par faire écouter à nos auditeurs ce que ça fait concrètement quand l'enfant va positionner le petit personnage donc, que vous avez dans la main. Alors les auditeurs ne voient pas, mais je vous décris. Elle va le mettre sur le pont.
1, 2, 3.
Voilà, donc on entendait les bruits des cailloux qui tombent dans l'eau et les voix des enfants, ce que vous avez enregistré quand ils ont été découvrir cet environnement qu'ils ne connaissaient pas. Ça marche, ça les surprend les enfants, ils adhèrent tout de suite à ce type d'expérience, à cette expérience concrète d'essayer, oui, je sais pas comment on peut dire, visualiser l'espace, c'est ça qui se passe pour eux ou on utilise plutôt d'autres termes parce que...
Non, c'est ça, c'est avoir une représentation mentale en fait de l'espace qu'ils ont découvert pendant cet atelier pour pouvoir vraiment s'approprier cet espace en faisant appel aux souvenirs qu'ils ont eus et qui reviennent grâce à ce son.
Alors c'est vraiment l'ensemble des dimensions dans lequel on va les plonger, l'espace, on le disait Nathalie, le temps, Christophe, important aussi dans ces expériences.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un déficient visuel, un enfant déficient visuel, il ne perçoit pas visuellement l'espace, donc il l'intègre à travers ses déplacements. L'avantage de ces petits objets, c'est qu'on peut reconstruire un quartier, par exemple, dans lequel il s'est promené, et c'est la seule opportunité pour lui, en l'explorant avec les mains, de se rendre compte comment ce quartier est configuré. Sinon, sa seule expérience de déplacement, en fait, il fait des intégrations qui sont fausses, et il va avoir une image mentale de cet espace qui est fausse aussi. Donc quand on fait ces petites maquettes et qu'on rajoute des souvenirs, ben ça lui permet de comprendre effectivement un quartier par exemple. Donc comment le pont est connecté à la route qui va à l'institut, etc. Et tout ça commence à faire sens dans sa tête. Il en a une image mentale. Voilà.
Alors, parce que pour construire une image mentale quand on est aveugle, il faut relier ensemble toutes les expériences qui ont été faites. L'expérience tactile, l'expérience auditive... Et c'est quand même assez complexe. Il faut maîtriser beaucoup d'opérations mentales. Et là, c'est un outil qui permet de façon relativement simple de convoquer deux expériences de modalités sensorielles différentes. En fait, l'expérience tactile sous les pieds, par exemple, quand on marche sur un pont, et l'expérience auditive. Tout est convoqué à la fois. Et ça renvoie aussi à une expérimentation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez efficace. Et puis aussi, il faut dire quelque chose, c'est que les enfants ont vraiment un très grand plaisir à manipuler ces objets-là. Et on apprend mieux quand on est dans le plaisir. Enfin, vraiment, ça se voit sur leur visage, ils sourient, ils rient, ils ont envie de recommencer. Enfin, c'est un outil qui leur donne envie. Et on apprend quand même beaucoup mieux quand on a envie d'apprendre.
Je rajouterais, l'avantage, c'est qu'il est personnalisé. C'est pas un outil impersonnel, c'est pas un truc qu'on a acheté, tout le monde a le même, non. C'est le sien, on l'a imprimé, il y a sa voix, il y a son caillou qui est tombé dans l'eau, qu'on entend, enfin, tout ça, ça provoque une motivation beaucoup plus grande.
Oui, ça participe à la simplicité d'assimilation pour l'enfant.
Et... Motivation, alors, plaisir.
C'est vrai qu'on se dit, ça aurait pu être, on aurait pu y penser avant, mais il nous fallait ces nouvelles technologies, il nous fallait cette simplicité de création d'objets avec les imprimantes 3D, avec c'est vraiment, j'allais dire, c'est possible aujourd'hui. C'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long avant et beaucoup moins personnalisé du coup. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, quand on voit juste ce petit pont et ce petit personnage et les quelques sons, on se dit finalement, effectivement, les possibilités sont immenses. On a parlé donc là d'un quartier qu'on reconstituait. J'imagine que vous avez des exemples déjà à l'appel et des projets et des demandes. De soit des professionnels ou des enseignants pour développer plein d'autres applications.
Oui, absolument. Moi, je rêve de connecter, par exemple, un arbre, un vrai arbre. Un arbre, qu'est-ce que c'est pour un aveugle? Quelqu'un qui n'a jamais vu, c'est juste un morceau de tronc, c'est des feuilles qu'il peut toucher lorsqu'il se met sur la pointe des pieds et encore. C'est un petit peu de terre en bas, une racine qui surgit et puis c'est tout. Il n'a aucune idée du gigantisme de l'arbre, de la taille de l'arbre. Et donc, l'idée, ce serait peut-être de réfléchir à une façon de manifester la taille de l'arbre, d'un point de vue sonore. Voilà, alors c'est une possibilité qui est peut-être un peu complexe au départ, mais voilà, un arbre, une maison, un immeuble, c'est gigantesque aussi, c'est très compliqué à se représenter. Est-ce qu'on peut traduire ça d'une manière sonore, en travaillant par exemple la question de l'échelle? Une brindille pourrait faire un son un peu court, un arbuste un son beaucoup plus long et un arbre gigantesque un son infini, enfin infini, qui serait fini à la mesure de la taille de l'arbre. Et les enfants sont habitués à traiter la question sonore. Donc ce serait peut-être une aide, une façon d'enrichir la représentation mentale et une façon de les aider à mieux comprendre l'environnement.
Il y a des freins, il y a des, à l'inverse, des choses où on se dit, là, ce sera pas possible d'aller plus loin. J'allais dire, c'est déjà exceptionnel si on peut donner une idée de l'échelle de l'arbre, de l'immensité de quelque chose grâce à des sons. C'est déjà superbe. Est-ce qu'à l'inverse, on a des freins, il y a des choses, on se dit, ça par contre, ça va être compliqué et malgré toutes les nouvelles technologies qu'on a, on va être bloqué. Ou aujourd'hui, on n'a pas encore rencontré ça. En tout cas, aujourd'hui, c'est encore tout est faisable. Peut-être le chercheur là-dessus, Christophe.
D'un point de vue technique, il n'y a pas énormément de freins aujourd'hui. Enfin, il y en a à la mesure de ces objets, mais connecter un arbre, enfin, rendre une partie de l'arbre interactive, ça, c'est pas trop compliqué. On peut le faire. Et faire en sorte que l'interaction déclenchée par des arbres de tailles différentes soit proportionnelle ou c'est pas, ça s'appelle de la sonification en fait. On va transformer une variable, par exemple la taille, en un son qui lui aussi va varier en proportion. Donc techniquement on peut faire plein de choses. Je crois que la limite c'est celle de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. On peut faire des sons, des choses qui n'ont pas de sens, par exemple. Ça existe depuis toujours, hein. Bon, ça fait partie de la recherche peut-être. Voilà, je crois que la bonne question après, c'est de savoir comment ça accompagne des apprentissages, de valider que ça a un sens pour l'enseignant, pour l'enfant. Voilà, on est au niveau de l'usage, je pense. On n'est plus vraiment au niveau de la technique, là.
Alors, Nathalie, vous nous avez amené un pont, mais il y a d'autres objets avec lesquels vous travaillez quotidiennement comme ça que vous auriez pu nous amener. Mais bon, j'imagine que vous n'alliez pas nous ramener l'entièreté de votre laboratoire avec les enfants. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avec quoi ils s'épanouissent le plus, finalement? Enfin, où ils apprennent, en tout cas, ils découvrent. Oui.
Par exemple, en mathématiques, avec des figures géométriques.
Ah, j'ai vu ça avec des sons. Mais j'ai pas,
une fois connectés, peuvent dire leurs propriétés. Donc, ça reste à un niveau assez simple pour l'instant. En partie pour s'adapter aux besoins des élèves à qui elles sont destinées. Et donc, en fait, qui disent combien elles ont de côtés ou combien elles ont de diagonales, ce genre de propriétés.
Donc, on touche, quand on est l'enfant, à un triangle ou à un rectangle. Et en même temps, le son nous explique ce que c'est.
C'est ça. La voix du professeur de maths, en fait, décline les différentes propriétés associées à cette figure.
Là, ça reste ludique, même pour les mathématiques.
Et ça reste ludique, et même si c'est leur prof de maths habituel, donc qui aurait pu leur dire la chose tout aussi bien s'il était juste à côté, mais ça reste ludique, et ils sont quand même toujours plus curieux de faire les exercices avec ça.
Alors, on le voit, c'est ludique. En même temps, on apprend énormément. J'ai vu une autre application, c'était avec des fruits. Alors, au début, je me suis dit, mais quelle idée de mettre des sons sur des fruits. Un fruit, a priori, ça fait pas vraiment de bruit. Et en fait, là encore, c'est passionnant, ça ouvre des possibilités. C'est Anne qui va nous expliquer ça.
Oui, alors des fruits, là, c'était vraiment avec un groupe d'adolescents autistes, très déficitaires d'un point de vue cognitif. Des personnes qui connaissaient le goût de certains fruits, qui aimaient par exemple la banane, mais qui ne supportaient pas le toucher de la banane, donc toucher une véritable banane, et qui ne parvenaient pas non plus à relier cette banane, cet objet, enfin ce fruit, au goût dans la bouche une fois que les petits morceaux étaient découpés.
C'est-à-dire qu'ils pouvaient manger de la banane s'ils ne savaient pas que ça venait de ce fruit. Quoi.
Voilà, alors il y avait une véritable réticence à toucher une banane, mais vraiment une sorte d'aversion, hein, comme peut l'avoir une personne autiste. Donc on s'est dit que si on connectait la banane à une chanson que l'enfant ou l'adolescent aimait beaucoup, peut-être quelque chose allait se passer de l'ordre du plaisir. Peut-être qu'il allait pouvoir quitter cette sensation désagréable liée à la texture du fruit pour aller vers quelque chose de plus plaisant, qui lui donne envie de manger et qui lui donne aussi envie d'attraper tout seul la banane pour éventuellement l'ouvrir et puis la manger.
Il faut comprendre que la chanson n'est jouée qu'au moment où il touche la banane. S'il la lâche, ça s'arrête. Donc c'est vraiment très interactif. On a même fait des petites batteries musicales avec des fruits, par exemple, aussi. On peut toucher plusieurs fruits et jouer à la batterie, par exemple.
C'est marrant parce que c'est un mot qu'on n'avait pas encore utilisé, je crois, dans l'émission, interactif. Alors pourtant, l'interactivité, c'est vraiment au cœur de tout ce projet et de toutes ces expériences qui sont faites. Alors, on le répète encore, mais à la fois, c'est très simple. Il y a un tout petit peu de technologie, enfin, il y a beaucoup de technologie, mais finalement, c'est une petite carte mémoire, c'est des choses assez simples. Et puis, un objet réalisé en 3D, un fruit, autre chose, c'est C'est quand même assez incroyable de voir ça. Et puis, on le dit souvent sur Vivre FM, c'est vrai que souvent les recherches qui sont faites dans le cadre de handicap, ben finalement, elles vont servir à tout le monde. Vous parlez des fruits et des légumes, on disait un enfant autiste qui peut avoir du mal à toucher un fruit ou ne pas aimer sa rugosité ou sa forme. Il y a plein d'autres enfants, même sans handicap avéré, qui juste pour être intéressés, peut-être que ça pourrait leur faire manger des épinards. On dit souvent que les enfants, ils aiment pas trop les épinards, mais c'est ça, c'est que les possibilités, là encore, sortent bien au-delà du handicap visuel, puisqu'on parlait d'autiste à l'instant, mais d'autres applications qui pourraient concerner d'autres handicaps aussi.
Oui, complètement, oui. Oui, bien sûr. Enfin bon, c'est vrai que notre champ d'investigation à nous, c'est la déficience visuelle. Mais on peut imaginer d'autres choses, et effectivement, pour l'enfant ordinaire également. Hein.
En deux mots, encore un exemple, parce que ça, c'est vrai que ça parle, je pense, beaucoup à nos auditeurs. Moi, j'ai vu toute une liste de projets, alors qui sont en cours, ou d'idées que vous cherchez. Est-ce qu'il y a un autre exemple que vous avez envie de citer, comme ça, avec un... Ah oui, ça y est, je vous ai perdu.
Non, moi, je sais plus.
Ouais, parce que j'ai vu qu'il y avait une liste quand même assez incroyable de projets qui sont en cours.
Ah si, oui, les vêtements connectés, ça, ou la ronde musicale aussi. Ça, c'est deux choses dont on n'a pas parlé. Donc, les enfants sont connectés. C'est-à-dire, pour comprendre ce que c'est que l'autre et le fait qu'on se donne la main et qu'on forme une ronde, en fait, ils sont tous connectés. Quand ils se donnent la main, la musique passe, et dès qu'il y en a un qui lâche la main de son voisin, la musique s'arrête. Et alors, c'est Mounir qui nous avait proposé cet atelier. Je ne sais pas si vous l'avez vu et si vous savez un petit peu quels étaient les objectifs derrière. Mais voilà, c'est ce que j'avais compris, en fait, une espèce de conscience de l'autre et du fait qu'on forme une ronde. Il suffit de se lâcher la main et ça ne joue plus.
Alors, on ne sait pas qui est Mounir, mais on reviendra sur lui dans un instant. En tout cas, on se quitte pour l'heure avec un peu de musique et cette ronde connectée.
Jusqu'à midi, recherche et partage sur Vivre FM, Blandine Lacour.
De retour encore, recherche et partage avec Nathalie Bédouin, transcriptrice, adaptatrice en documents à l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse, avec Anne Laureau, qui est enseignante spécialisée aussi à l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse, même s'il a un nom beaucoup plus complexe, mais il fallait réentendre le début de l'émission pour savoir lequel, et Christophe Jouffré, chercheur à l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, et directeur du laboratoire commun, justement avec l'IJA, avec lequel vous développez tout un tas de projets passionnants. À l'instant, on parlait de la ronde connectée avec Mounir. Alors juste, on va préciser qui est Mounir pour nos auditeurs. Mounir
est un éducateur spécialisé qui travaille avec un groupe d'adolescents autistes. Donc c'est avec lui qu'on connecte des fruits, par exemple, on en a parlé tout à l'heure. Mais il a aussi d'autres projets, donc cette ronde, pour travailler sur la relation à l'autre, en fait. Hein, le fait d'être vraiment ensemble, ce qui est très compliqué lorsqu'on est autiste, bien sûr.
Et puis alors, bon, Mounir est à Toulouse avec vos équipes, mais on va faire un bond tout de suite jusqu'à Paris, parce qu'à Paris, il y a l'INJA, qui est l'Institut National des Jeunes Aveugles, et qui travaille aussi avec vous, qui est en lien énormément avec cette recherche.
Oui. Parce que, en fait, on a eu l'occasion de présenter ces projets dans des journées pédagogiques. Et on a rencontré donc un des enseignants de l'INJA, qui est Julien Berthier, qui est professeur d'histoire-géographie et qui avait déjà commencé, lui, à imprimer des plans de Paris pour accompagner ses apprentissages géographiques et historiques. Et du coup, on a travaillé avec lui sur la connexion. C'est un gros puzzle, hein, il faut imaginer un gros puzzle en 3D. Donc, toutes les pièces aujourd'hui sont interactives. Elles se décrivent, elles peuvent décrire leur position, mais aussi leur histoire. Et là, on est en train de mettre en place, donc, à l'INJA, une évaluation un peu plus scientifique de ces objets, c'est-à-dire qu'on va essayer de montrer que ces puzzles connectés, interactifs, permettent d'améliorer les apprentissages historiques et spatiaux chez les enfants. Donc, on va évaluer ça dans deux classes, de seconde et de première. On va comparer ça aux bons vieux apprentissages avec des cartes thermogonflées, quoi.
Pour avoir, entre guillemets, une preuve scientifique que ça marche, même si on suppute déjà que, a priori, ça marche bien. Alors, il y a autre chose dont on va parler, qui est le défi hackathon, qui est dans le cadre de ce projet de recherche sur lequel vous travaillez. Alors, c'est marrant, j'ai le flyer sous les yeux. Hackathon, objet interactif, geek wanted. Voilà, alors si vous êtes geek et que vous nous écoutez, que vous souhaitez participer à un projet fun, c'est marqué, qui favorise l'accessibilité pour les personnes déficientes visuelles, eh ben vous trouverez tous les renseignements sur le site qu'on vous donnera tout à l'heure, mais on va vous en parler tout de suite et vous mettre l'eau à la bouche. En gros, il s'agit, et c'est pas Nathalie qui va me contredire, finalement, vous avez commencé à travailler sur ce projet de recherche, et les idées fusent, mais on n'a pas forcément les ressources ressources sous la main pour développer tout ce qu'on aurait envie de développer et tout ce que j'imagine avec les enseignants, les enfants, vous envisagez comme possibilité de créer de nouveaux objets.
C'est ça. Au fur et à mesure qu'on a des objets interactifs réalisés et testés à l'Institut, on s'aperçoit que ça donne envie d'en avoir plus, d'en avoir dans des domaines différents. Et du coup, le hackathon pourrait permettre de mettre en relation les professionnels de l'Institut des jeunes aveugles qui ont des idées mais qui n'ont pas forcément les compétences pour les réaliser avec des gens qui, eux, auraient envie de participer pour justement réaliser les objets et l'interactivité.
Alors, pour être là encore une fois très clair pour nos auditeurs, pour que ça vous parle, le hackathon, on vous donne des idées d'ateliers, des idées d'idées à développer, et puis à vous de les réaliser. Alors, vous disiez, il y a énormément de domaines différents. J'en vois un, par exemple, initiation à l'éducation sexuelle. L'idée, c'est de créer en 3D l'appareil génital de la femme. Alors, il y a marqué de la femme, je sais pas, peut être de l'homme aussi. Enfin, tout est envisageable. Mais là encore, pour expliquer aux jeunes, pour découvrir, pour les... leur permettre de visualiser ça et de comprendre.
C'est ça, c'est pour pouvoir avoir une meilleure compréhension, parce qu'ils se posent beaucoup de questions. On a beaucoup d'adolescents à l'Institut, donc pour pouvoir développer leurs connaissances, mais d'une manière ludique et accessible en même temps.
Alors l'atelier locomotion, l'atelier alphabet, je crois que c'est Anne qui était attachée à celui-là, qui va nous parler des lettres braille.
Absolument, donc le braille, un grand classique chez les déficients visuels. Donc est-ce qu'on pourrait créer des sons à partir des lettres braille? Est-ce que les lettres braille pourraient créer un son lorsqu'on la touche? Ben oui, pourquoi pas. Donc on a essayé de mettre en place quelque chose comme ça, notamment avec un enfant autiste, qui entendait des sons lorsqu'il touchait une lettre. Par exemple, il touche le H, il entend l'hélicoptère. Mais c'est quelque chose de très interne, qui est uniquement lié à lui, et qui lui a permis un petit peu de rentrer dans le braille, mais au bout d'un moment, ça s'est essoufflé. Donc moi, je me suis dit, on va le décentrer un petit peu. Donc déjà, on va faire en sorte que ce son qu'il entend dans sa tête, il l'entende à l'extérieur. On va créer de l'autre, de l'altérité. Donc maintenant, il touche le H, la lettre braille, et il, en touchant cette lettre, le son se met à jaillir et il entend le H. Enfin, il entend le bruit du H qui était avant dans sa tête, puisqu'il a enregistré lui-même ce bruit. Donc il se passe quelque chose qui est un peu fort pour lui, d'un point de vue émotionnel, qui est ce bruit interne qui devient externe, et il chemine vers l'apprentissage de la lecture. Alors bien sûr, ça pourrait être un gadget si on s'en tenait là, mais on essaie vraiment de faire un travail autour du développement psychique de l'enfant et également autour des apprentissages, donc avec un objectif pédagogique réel, qui est là par exemple d'apprendre à lire, mais qui est aussi, lorsqu'on s'occupe de la locomotion, d'apprendre à se déplacer, d'apprendre à mieux se représenter l'environnement. On exploite tout ce projet dans un sens vraiment didactique.
Si je peux juste ajouter un mot sur les lettres, parce que c'était intéressant. Alors, ce n'était pas avec Anne, mais c'est un atelier qu'on avait mis en place à l'université. En fait, il s'avère qu'on peut connecter une lettre braille et lui faire dire A, mais on peut connecter un A imprimé en majuscule et lui faire dire A. Et on a créé là un petit traducteur braille, ce qu'on appelle du noir. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que les enfants voyants apprennent le braille en jouant avec des lettres connectées. C'était vraiment étonnant, quoi. C'était pas du tout un usage qu'on avait imaginé au départ, mais du coup, ça devient une espèce de lien aussi entre deux communautés, celle des voyants et celle des non-voyants.
Alors, on sent que de toute façon, effectivement, les applications et ce qui va découler de cette recherche va être passionnant. Et il y aura d'ailleurs un partage de ces résultats. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous allez faire après de tout ça, de toute cette masse d'informations et de découvertes dans le cadre de ces projets?
Alors, du coup, je vais commencer, puis après, peut-être qu'elles vont compléter. Déjà, on publie. On partage avec le reste de la communauté internationale sur ces aspects. Ça, c'est important, parce qu'on montre que c'est possible. Mais surtout, là, par exemple, l'hackathon, pour nous, c'est une façon de sensibiliser des jeunes, de venir mettre un petit peu de leur expertise, de leur temps sur ces projets. Mais on voudrait bien faire une journée au printemps, là, où finalement toutes les équipes geeks et professionnelles vont venir présenter leurs petits projets. Et on va se rencontrer, du coup, on va pouvoir faire cohabiter tous ces projets, montrer que c'est possible, etc. Et puis on a le blog sur lequel on va poster aussi tous les projets avec des vidéos, avec des liens vers les technos, où les acheter, pour quel prix, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre capable on dit ça en anglais, empower, les professionnels, c'est-à-dire qu'ils aient des idées, qu'ils puissent les réaliser.
Nathalie, Anne, les professionnels, justement, vous comprenez parfaitement ces technologies, vous avez envie, hâte que ce projet Hackathon voit le jour, qui vous amène d'autres outils pour finalement améliorer votre travail auprès des enfants, des jeunes, des ados.
Oui, complètement. On a hâte de réaliser tous les projets parce qu'on a toujours des listes de choses qu'on a envie de faire.
Ça va vite quand même, du coup, avec ces nouvelles technologies. On a l'impression que ça avance. La recherche a démarré en septembre, octobre.
Septembre.
Septembre 2014, 2015.
Il faut absolument qu'on pense à remercier Stéphanie Giraud, qui est la personne qui aurait dû être là et qui n'a pas pu venir. Et qui est avec Nathalie, principalement, qui est le principal moteur. Qui est dans le
Voilà, c'est fait. Ouais. Merci alors à elle.
Voilà, parce que c'est la personne ressource qui nous aide à mettre en œuvre tout ça, qui nous aide à commencer en tout cas, même si après des fois ça...
Qui est payé par la FIRA.
Oui.
Bon. La FIRA, justement, on va y revenir tout de suite. D'ailleurs, d'abord, je recite le blog, vous parliez d'un blog tout à l'heure pour le hackathon, et puis pour découvrir la plupart de ces applications, c'est cherchonspourvoir.org. Après, il y a différentes parties dans le blog, mais cherchons pour voir.
Alors, si on veut vraiment aller directement sur le blog, si on est intéressé par les technos, c'est Fais-le pour voir, tout en un mot, tout tenu, Fais-le pour voir. C'est un sous-répertoire du site qui s'appelle Cherchons pour voir. Cherchons pour voir, c'est le labo. Et à l'intérieur, on a ce projet de blog qui s'appelle Fais-le pour voir.
Voilà, parce que là, on a juste défriché, on a approché un peu toutes ces petites applications, tous ces projets. Mais en tout cas, il y a la liste. Et puis, il y a la liste de tous les projets que vous aimeriez voir être réalisés.
On aimerait bien qu'il y ait des équipes parisiennes. Hein, pourquoi pas?
Mais il y en aura sûrement. Il y en aura sûrement, en tout cas.
C'est pas compliqué. Hein. Venez sur le site et puis manifestez-vous.
Voilà.
On trouvera des professionnels parisiens qui veulent monter une équipe.
Que nos éditeurs n'hésitent pas à partager cette information sur le hackathon. Ouais. S'ils ont des amis geeks qui s'y connaissent un peu, qui ont envie de développer quelque chose à la fois de ludique, d'utile et puis de travailler sur des choses quand même absolument passionnantes. Je dis un mot juste avant qu'on termine l'émission et je me dépêche, sinon je vais me faire gronder par le réalisateur. Mais je vous rappelle que l'appel à projet 2016 de la FIRA, le 7e appel à projet, est lancé, est ouvert. Donc voilà, vous pouvez trouver, j'ai plus trop le temps de vous le dire, mais toutes les informations sur fira.org. Et la date butoir pour déposer les lettres d'intention, si vous avez des projets, c'est le 25 mars. Et puis cette année, la mise en avant spécifique de plusieurs thématiques, il y a l'accès à l'éducation, la mobilité, l'avancée en âge des personnes handicapées, les processus de transition entre des établissements résidentiels et des services de soutien à la vie en milieu ordinaire, et le soutien aux proches aidants. Voilà, j'étais obligée d'aller un petit peu vite, mais toutes ces infos sont sur fira.org. Et puis, donc dans le cadre de cette recherche GeoAccess, cherchons pourvoir.org ou fais-le-pouvoir.org. Vous trouverez tout ça, et puis évidemment, on va tout marquer sur le site internet de Vivre FM. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous.
Merci.
C'est passionnant, et puis on espère que vous reviendrez nous parler des nouveaux projets qui ont abouti et de tout ce que vous allez pouvoir faire comme nouvelle expérience avec les personnes déficientes visuelles ou autistes. Merci à tous les trois.